pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et on retrouve en cette rentrée 2019 Serge Mariani bien sûr. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Comment
Julie,
ça va?
C'est la rentrée, ça y est.
Ouais.
Ouais, décidément, tout le monde rentre.
Première même émission en studio là, depuis la rentrée.
Ouais. Je vois que vous avez mis des installations un peu pour les fous dangereux.
On a pensé à toi.
c'est peut-être une bonne idée. Je vais me jeter contre les murs, là, je ne vais pas me faire trop mal.
Bon, enfin, ton invité n'est pas un fou dangereux.
On va s'en rendre compte dans quelques minutes, alors je vais essayer de le présenter. But who is Alex Montfort? Selon nos recherches et les dossiers que nous avons pu consulter dans les scripts de tous les épisodes du Bureau des Légendes, Alex ne serait pas apparenté à Nelson, ni l'amiral Manchot et Borgne, ni le commentateur sportif, even if he can speak good English. Non plus à Sylvia, comédienne d'autant plus rare désormais qu'elle est officiellement décédée en 1991, et dont j'admirais autant le jeu théâtral que la beauté radicale. Whatever, Alex Montfort est avant tout un pianiste de jazz, une espèce toujours ni en voie, ni menacée de disparition, selon le Fonds mondial pour la biodiversité de la musique. Et c'est tant mieux. Alex aurait découvert le piano sur le tard, il a donc vite rattrapé le temps perdu aux côtés de musiciens qui vous donnent vite le goût d'apprendre et d'atteindre les sommets les moins explorés du genre, Didier Lockwood par exemple. Alex Montfort rend fréquemment hommage aux pianistes qui l'inspirent, comme Chick Corea ou, moins connu d'un public large, Mulgrew Miller. Il s'est notamment entouré de deux excellents complices pour constituer un trio de haut vol, je place cette expression aussi souvent que possible comme éponyme, Samuel Fima à la contrebasse, et Tom Perron à la batterie. Le tout, rassemblé sous le sigle AMT, en passe de devenir aussi fameux dans le microcosme du jazz que le non moins fameux EST du regretté Esbjørn Svensson. Nous conseillerons donc à Alex Montfort d'éviter la plongée sous-marine et de se satisfaire de beaux chorus au clavier de son piano. Il y a sûrement des touches qu'il a encore peu utilisées. Isn't it, Alex? Bonjour, merci d'être là.
Bonjour Serge, merci de m'accueillir.
Alors, oui, il y a des touches du piano... que vous sollicitez moins que d'autres.
Ouf, voilà, ça dépend des jours. Hein. Ça dépend du jour. Je dirais qu'il y a surtout des doigts que je sollicite moins que d'autres. Et...
Ah oui, on va pas parler technique là.
Ouais, mais... non, peut-être pas aujourd'hui.
Non, mais un peu quand même, c'est intéressant. Moi. Je découvre à chaque fois non, avec les interviews de musiciens.
C'est vrai que depuis que j'ai commencé le piano, la plupart des professeurs que j'ai pu avoir ou des pianistes qui ont pu observer ma façon de jouer m'ont souvent dit. Hey Alex, quand même, fais gaffe, ton petit doigt, il est souvent en l'air, voilà, évite de jouer qu'à 3 doigts ou qu'à 4 doigts, mais bon, j'ai envie de dire, les mecs ont raison, mais bon, voilà, j'ai mon son comme ça, j'ai ma technique comme ça, c'est mon, un peu mon identité, pourquoi le changer, quoi.
Ouais, parce que bon, à l'écoute de l'album par exemple, hein, bon, on n'a pas l'impression, je serais incapable de dire avec combien de doigts vous utilisez.
Ah bah là, il y a les doigts de pied aussi.
D'accord.
Non, je déconne.
Mais ouais, puis il y en a qui donnent du front aussi des fois, des pianistes un peu déchaînés. Mais non, mais c'est intéressant quand même parce que, en effet, je disais dans l'intro là, que vous avez découvert le piano un peu sur le tard.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, comment c'est venu un peu cette aventure pianistique?
Ah bah, il y a eu plusieurs informations majeures dans ton introduction, dans votre introduction. Bah, notamment Sylvia Montfort. Ma mère s'appelle Sylvia. Voilà. Le hasard fait bien les choses. Et elle n'était pas actrice. Elle était, en tout cas, du moins, elle a étudié le piano classique pendant des années au conservatoire de Casablanca avant, avant d'arriver en France.
Mmh.
Et donc voilà, il y a toujours eu un piano à la maison et j'y ai pas touché avant l'âge de 14 ans. J'ai commencé par le violon. J'ai d'ailleurs fait une masterclass quand j'avais 6 ans avec Didier Lockwood. C'est comme ça, c'est la première fois que je l'ai rencontré, ce grand Didier. Et ensuite la batterie. Et voilà, donc j'ai commencé la batterie. Ouais,
c'est un peu un parcours inverse de pas mal de musiciens qu'on a interviewés ici, qui en général commencent par le piano. Et puis souvent, alors soit ils se dirigent vers justement la batterie ou un autre instrument, contrebasse, enfin bon, c'est là. Et donc, vous avez fait un peu le...
Le chemin inverse, c'est ça. Ouais. Bah, j'ai pas un parcours comme les autres, mais c'est ça qui est bon, quoi.
Mmh. Ah ben, c'est toujours bien, ouais, d'avoir des parcours originaux. Ouais, ouais. Donc, à je sais plus quel âge déjà.
À 15 ans, j'ai commencé le piano.
Sérieusement, à 15 ans. Ouais, comment, voilà. Où ça?
Chez moi, dans ma chambre, en écoutant des disques, en relevant les meilleurs. Mais avant, en écoutant, en relevant des musiques de films et de jeux vidéo, ouais.
Ah,
je
wow.
suis un Miyazaki ou Nobuo Uematsu.
D'accord, un peu quand même asiatique japonais. Quand
ouais,
même.
Ouais, ouais, bah c'est un univers qui, quand j'étais beaucoup plus jeune, m'a toujours fasciné. Et voilà, bon, maintenant c'est plus trop le cas, même si j'apprécie toujours la musique et la composition. Mais voilà, maintenant c'est plutôt le jazz, les musiques improvisées et surtout la musique afro-américaine en général, le rap, le R&B, le hip-hop.
Mais je reste un peu sur le Japon. Vous êtes allé au Japon?
Pas encore.
Jouer? Parce pas qu'ils sont encore. Très friands.
J'ai quelques pistes là, ouais, pour organiser ça.
Oui, ils ont sûrement années. Apprécié. Il y a quelques clubs renommés.
Oui, oui, oui. Bah, il y a la sortie de mon dernier album là, en 2018, Introspection. Il y a quelques critiques japonaises qui sont sorties. Kenichi Watanabe, je crois, qui m'a envoyé une super chronique là, sur mon, sur
ah, bien,
mon album.
Bon,
et deux, trois blogs aussi.
C'est bien. Parti. Hein. Mm-hmm. Et alors, après, une fois sorti de la chambre, après avoir décrypté les musiques de films et de jeux vidéo, comment ça a évolué?
Mais ça a évolué...
Jusqu'au premier concert, notamment.
C'est-à-dire
bah, jusqu'à la première fois de jouer en public,
la
au piano.
La première fois de jouer en public. Ah, bah, la première fois que j'ai joué en public au piano... À part devant mon chat.
C'est un public exigeant. Hein,
ouais,
le chat.
Surtout quand je joue du violon, il commençait à miauler à la mort.
Pas
là,
trop exagéré non plus, pas en demander trop.
Non, plus sérieusement, ouais, en fait, mon premier concert, ça a été une grosse marque, on va dire. C'était au Toulouse Game Show. Donc à Toulouse.
Alors, entre un truc de vidéo alors.
Ouais, ouais, ouais. Avant de commencer le jazz, c'était mon premier concert et c'était devant 15 000 personnes et dans un énorme hangar et je devais jouer la musique de Nobuo Uematsu et tous ces gars-là. Et lui était présent dans la salle et voilà, grosse pression, j'avais 14 ans et c'était cool. Ouais. C'était cool.
Moi, je suis pas très pratiquant, j'ai rien contre, hein, mais de jeux vidéo, c'est pas trop dans ma. Je regarde des fois, je suis curieux, les personnages, les dessins, l'ambiance, mais ça ressemble à quoi? Enfin, évidemment, on va pas le faire là, mais c'est quoi l'esprit de la musique de jeux vidéo pour
bah, en tout cas, c'est,
donner
c'est,
une idée bah, sans l'écouter tout de suite?
Oui, bah, ces musiques-là sont souvent des musiques qu'on pourrait aussi apparenter à la musique romantique. En fait, il y a tout un univers. Très classique, très romantique derrière, mais avec une, on sent toujours la culture mélodique asiatique avec une pentatonique souvent présente. Il y a une, enfin en tout cas moi, je trouve qu'il y a une grosse émotion qui se dégage de ces.
Mais c'est rentré, ça rentre bien dans la culture parce que je connais pas mal de musiciens qui ont même monté des grands orchestres. Qui joue, je ne sais plus le nom d'une formation à laquelle je pense là, et évidemment ça ne va pas me revenir parce que je n'avais pas du tout prévu d'en parler, et même, mais qui interprète donc en grande formation des musiques de jeux vidéo.
Ah oui, je pense que ça arrive.
Ah oui, oui, c'est de plus en plus, voilà, c'est apprécié et ça fait partie de la culture des musiciens qui ont entre 20 et 30 ans. Et en plus, il y a vraiment, oui, bien sûr, maintenant il y a un vrai public dense, voilà, dont je ne me sens pas vraiment partie, mais bon, on ne peut pas être partout, tout le temps. Hein. Bien, Alex, bon, autre chose à ajouter sur la formation avant d'aller plus loin dans une deuxième séquence et de faire une première pause?
Pour faire rapide, ouais, conservatoire de Gravenchon, quelques mois avec mon poteau James Jacquenet, voilà, si tu m'écoutes, salut à toi. Ensuite, j'ai très vite bifurqué au conservatoire de Rouen avec Rémi Billet, voilà, très bon saxophoniste, super personne qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'est dans le conservatoire que j'ai eu mon DEM, que j'ai passé tous mes premiers diplômes. Pareil, j'ai fait une formation très furtive, donc je suis rentré, j'ai tout fait en 3 ans. Oui, ciao, bonsoir, j'empoche mes diplômes.
On n'est pas
diplômes.
Là pour perdre son temps.
Voilà, non, c'est faut se dire les choses. Et voilà, donc en dernière ligne droite de cette école, Florent Gac, très 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 bon pianiste reconnu sur la scène jazz française et organiste aussi, super organiste. qui m'a formé les 6 derniers mois de ma formation au conservatoire de Rouen, parce qu'avant il n'y avait pas de professeur de piano, c'était à l'époque où le cursus jazz se développait là-bas.
D'accord.
Ouais, donc c'est un peu lui qui m'a formé pour rentrer à l'école Didier Lockwood, et
d'accord.
Voilà,
voilà,
donc, en 2014 je suis arrivé chez Didier Lockwood,
voilà, on va en parler,
Adam-Marie Lelis, et... Ouais. Et là que j'ai rencontré les membres de mon trio actuel.
Voilà, ben, on va parler de tout ça dans la prochaine séquence, mm-hmm. La 2. On va terminer celle-ci sur un des titres que vous avez choisi. Donc là, j'hésite un peu entre Mike Kotainer et Chick Corea.
Allons pour McCoy.
Pour McCoy. Alors, on écoute le premier choix d'Alex Montfort dans cette jazz interview. Inception par Mike Kotainer. C'était donc de McCoy Tyner, Inception. McCoy Tyner, qu'on connaît aussi beaucoup pour avoir accompagné John Coltrane, par exemple. Mm-hmm. Inception, c'est sur un album particulier alors, que tu as découvert à un moment particulier.
Ouais. Alors c'est sur l'album Inception de McCoy Tyner. Voilà, donc le titre éponyme.
Ah, j'adore ça. On peut le redire ?
Le titre éponyme, voilà, Inception, ouais. Voilà. Donc dans l'album Inception de McCoy Tyner. Et voilà, donc sorti en 1962 avec Art Davis à la contrebasse et le grand Elvin Jones à la batterie.
Bien sûr.
Évidemment, qui a accompagné avec McCoy également John Coltrane. Ouais. Voilà. Et voilà, pour la petite histoire, comme tu demandais, avec...
Ça y est, on est parti pour se tutoyer maintenant. C'est pas grave, on est dans un autre épisode.
Oui, ah, ouais, ouais, c'est, voilà, c'est fait. Le feeling est passé.
Ouais, ouais. La chef me dit, ouais, c'est bon, on peut y aller.
Et du coup, ouais, alors c'est cet album-là, c'est le premier album de jazz que ma mère m'a donné. Et,
ah, d'accord, ça c'est toujours important. Ouais.
Et c'est un album que j'ai bien rodé, ouais.
C'est-à-dire que tu l'as déchiffré aussi.
Ah, je l'ai relevé. Tu l'as relevé, voilà, plusieurs morceaux. Je l'ai écouté en boucle. Je peux chanter tous les morceaux, tous les solos. Il y a aucun problème. D'accord. Je connais tous les kicks.
Ok. Qu'est-ce qui caractérise pour toi le style de McCoy Tyner?
Je pense pour moi c'est un pianiste qui a eu plusieurs facettes. Voilà. Je me souviens à une foire fouille. À un vide-grenier, je suis tombé sur un gars qui m'a proposé une collection de CD de jazz, et j'en avais déjà quelques-uns dans la mienne. Et je suis tombé sur un album en solo de McCoy Tyner, un peu chiant, où il faisait des œuvres un peu classiques. Voilà, donc j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à voir interpréter des standards. Et vu que tous les morceaux étaient écrits dans une langue asiatique que j'ai pas pu identifier, voilà, impossible pour moi de reconnaître des noms de standards ou quoi. Donc je me suis dit, bon, allez, on va découvrir. Et donc voilà, bon, pour moi, c'est un pianiste immense, interprète, compositeur, sideman, soliste, qui a voyagé dans le temps et dans les styles, du solo un peu chiant au solo magnifique, en passant par un côté sideman avec John Coltrane, qui a d'ailleurs amené toute une école de pianistes et de manière de jouer le piano, avec ses voicings en quarte et une manière de jouer très percussive entre ses deux mains. Voilà, donc il a amené une... toute une nouvelle vague
renouveler les choses.
Ouais, voilà. Il a été un pianiste très important, très novateur et visionnaire à son temps.
Ok. Donc on revient, comme on disait en terminant la première séquence, à la suite de ta formation. Donc tu connaissais déjà un peu. Là, tu te lances dans une formation aux côtés de Didier Lockwood.
Je me suis lancé, ouais. En 2014, je suis arrivé là-bas,
Damary. Donc au centre,
au centre des musiques d'Itty Lockwood à Damary. Pour faire rapide, super école, super ambiance, super prof.
Qui fait le piano là-bas?
Benoît Souris, c'est le teacher principal. Super gars, le cœur sur la main. Un côté paternel qui m'a beaucoup beaucoup aidé à certains moments.
Ouais, ça fait du bien de temps en temps.
Ouais. Quand t'as des questions un peu, on va dire, existentielles.
Parce que là, tu as quel âge quand t'arrives
Quand j'arrive là-bas, j'ai... Tu me fais faire des calculs. je dois avoir 20 ans.
Ouais, bon, on va dire autour de 20 ans.
Ouais, voilà, quelque chose comme ça, 21.
Un an près.
Et voilà, bon.
C'était mon anniversaire, là. C'était mon anniversaire il y a peu de temps. Là. C'est comme quoi, on va pas le dire non plus, l'âge. C'était presque plus de 20, un truc comme ça.
Sur une base de 20. C'est ça, ouais. Yes.
Sur une base de 20.
Ok.
Ok, donc voilà, 20, 21 ans, Didier Lockwood.
Ouais.
Avec Benoît Souris.
Voilà, avec Benoît Souris, voilà, qui est, en plus d'être le professeur de piano principal de cette école, est aussi un des trois piliers de l'école maintenant, parce que avant c'était un des quatre, mais vu que Didier nous a quittés, malheureusement. Voilà, maintenant c'est principalement Chantal qui gère l'école avec André et Benoît. Mais Donc je suis arrivé là-bas, ça m'a apporté beaucoup de choses sur le plan humain, dans la musique, et sur la confiance en soi, sur la manière de voir les choses et d'aborder la musique. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'avais plutôt une vision personnelle et académique de la chose. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, je me suis aperçu que ce soit tous mes collègues qui étaient là avant moi et les professeurs, bah, ils sont tous un peu plus peace. Ils m'ont tous dit relax, c'est que de la musique, fais-toi plaisir, partage. Et y a vraiment une histoire d'entraide, une ouais. relation d'entraide entre les élèves. T'apprends beaucoup des élèves, autant que des profs. Et ça joue, ça sessionne, en tout cas à mon époque et à l'époque d'avant, ça, c'était comme ça, on s'arrêtait jamais de jouer, c'est vraiment un très bon vivier, quoi.
Et d'autant plus que c'est donc là que tu fais la connaissance des deux musiciens qui constituent ton trio.
Ouais, Tom et Samuel.
Alors on en parle un petit peu.
On en parle un petit peu, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux, mais en fait, on habite ensemble depuis plus de 3 ans maintenant, en colocation, et on a beaucoup voyagé, on a beaucoup joué.
Donc vous connaissez très très bien.
Ouais.
C'est
important, on a partagé beaucoup de choses, que ce soit des fêtes, des événements tristes, des événements heureux, des voyages, de la musique, de la création, des enregistrements, tout. Ça aide parce que maintenant, à chaque fois qu'on nous voit, c'est on a l'impression que vous êtes qu'un, quoi.
Ça
fait plaisir à voir, ça fait plaisir à entendre, c'est pas souvent.
Ouais. C'est rare, oui, c'est vrai. C'est des trios qui sont très fusionnels, ouais. Comme des couples.
C'est ça, parce que ça nous arrive aussi de nous engueuler, ça nous arrive aussi de...
Il y a des assiettes qui volent.
Ouais, il y a des assiettes qui volent. Ouais. J'avais compris, il y a des assiettes qui volent.
Ça, je ne connais pas votre vie privée, mais... Moi, je me tiens aux assiettes. Yes.
Non, mais ouais, c'est... En fait, c'est un peu un laboratoire maintenant, c'est un peu devenu un laboratoire dans le sens où on se connaît tellement bien, on connaît tellement bien notre musique, que arriver en concert maintenant, même pour le Sunset, il y a 2 semaines, là, on faisait un hommage à Mulgrew Miller le 20 août au Sunside, dans le cadre des trophées du Festival Pianissimo.
Du Festival Pianissimo, il y a 3 semaines.
La veille pour le lendemain, je leur change complètement la setlist, je leur dis, les gars, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse un vrai hommage à Mulgrew, qu'on joue pas que 3-4 morceaux, et on y va, je leur envoie quelques rôles. Au dernier moment, on se dit, on va faire ci, on va faire ça, on prend 2 minutes pour le faire.
Un peu de jam, quoi. Un peu un esprit.
Non.
Non, mais dans l'esprit, quoi. On va faire ça. Non, mais attends, je parle pas de la.
Justement, mais en fait, on n'aime pas le terme jam dans notre équipe. La jam, c'est un peu le bordel, tu vois. Là, c'est cool, là, c'est maîtrisé, c'est contrôlé.
C'est pas faux.
Non, mais faut remettre les choses dans leur contexte. Le mot jam.
Moi je parlais dans le côté, tout d'un coup, quelqu'un dit « Ah, on va faire ça, c'est bien. Ah oui !» Tu vois, c'est ça, plutôt le côté surprise et plaisir de partager quelque chose qui n'était pas prévu.
Oui, mais dans un temps donné et en ayant un laps de temps de pouvoir contrôler cette musique,
bien
même s'il est moindre. Voilà, c'est ça qui fait notre professionnalisme, en 20 minutes, on va se dire « Bah tiens, on fait ça, on monte le truc et c'est cool. »
Bien sûr.
C'est un peu un laboratoire dans le sens où on peut se permettre de réinterpréter même notre musique, de se dire, par exemple, Matt Coltrane, aujourd'hui, on va pas du tout le jouer comme ça, on va le jouer plutôt dans cet esprit, plutôt justement Coltrane, vachement spirituel, l'esprit Love Supreme, plutôt que Fast Swing, on teste des choses, on se fait plaisir et ça se ressent, je pense.
Et chacun a ses projets personnels aussi, bien sûr. C'est toujours ça aussi qui vivifie un trio, un groupe, c'est que, moi je connais un petit peu mieux Tom, je connais pas beaucoup Fima, Ouais. Mais je sais que Tom, il a des projets il s'investit pas mal par ailleurs, en dehors de AMT.
Ben c'est exactement ça, Serge. C'est la mixité dans les genres, les influences de chacun nous fait évoluer ce projet. Enfin, on se fait évoluer nous-mêmes.
Bien sûr, c'est important.
Comme tu disais, Tom joue avec plusieurs groupes, par exemple Theorem of Joy, Olivier Gay ensemble. Il y a aussi un projet avec un super vibraphoniste de jazz là, qui est arrivé sur Paris il y a quelques années, Alexis Vallée qui va sortir son premier album là, en octobre. Donc soutien, écoutez sa musique, c'est chouette. super équipe. Et donc ce projet avec Alexis s'appelle La cinquième roue. Voilà, d'accord. La cinquième roue. Voilà. Donc pour Tom, voilà, qui a beaucoup de projets, on l'appelle aussi beaucoup en tant que sideman. Et Samuel, lui, c'est pour moi le bassiste que je connais qui a le plus de projets différents à Paris. voilà. Bon, après je connais pas tous les bassistes, hein, mais de mémoire, souvent, je crois qu'il y a une quinzaine de projets fixes. Voilà, que ça soit des projets musique. Très actuel, à la limite de l'électronique, je pense à Daïda, un groupe monté par Vincent Tortillet, génie de la batterie actuelle, voilà, compositeur, une personnalité très forte qu'on apprécie tous. Voilà.
D'accord.
Il faut savoir aussi qu'on est tous une bande de copains issus plus ou moins de l'univers low-code ou alors qui gravitent autour de cet univers. Donc c'est toujours un plaisir de partager, de créer des nouvelles choses. On se connaît tous un peu, c'est un peu un microcosme.
Voilà. Alors, on retourne à la musique qui t'inspire. Et pour faire cette deuxième pause en musique, on va écouter ton deuxième choix, Chick Corea au rumba flamenco. Thank you. Rumba Flamenco Chicorea, de je ne sais trop quel album, mais c'était le choix de Alex Montfort pour cette pause musicale.
Alors l'album, oui, voilà, c'est l'album New Trio, un album qui m'a beaucoup influencé, un album sorti en 2001 avec les grands Avishai Cohen à la contrebasse et Roy Hans. Non, la... non, non, que non. dis-je
à la batterie.
Honte était... à moi, c'est Jeff Ballard à la batterie.
D'accord.
Ouais,
bon,
c'est... Parce qu'ils ont beaucoup
Il
joué.
Il était remplacé
avec
au dernier
Roy,
moment, mais... je crois.
Non, même pas, mais enfin peut-être. J'étais pas là pour le voir, mais en tout cas, ouais, c'est super. Album, une composition de la patte de Chic inégalable. Donc voilà, j'ai choisi ce morceau pour illustrer le concert qu'on va faire demain soir en hommage à Chic Corea au Jazz Club, 38 Rives Jazz Club. Voilà,
d'accord,
c'est ça.
Sur la rue de Rivoli.
Venez nombreux.
Ouais, d'accord. Bien sûr. Ça c'était Chic Corea. Nous on va parler de ton album qui s'appelle Introspection, on dit, ou Introspection.
Tu peux dire les deux, ouais, y a pas de souci.
Alors Introspection, ça a un sens bien précis hein, en français, en psychologie, en philosophie.
Ouais, dans beaucoup de cas de figure. Ouais. La question en gros c'est pourquoi, donc, pourquoi ce
mais
nom.
Mais pourquoi donc ce titre étrange venu d'ailleurs?
Venu d'ailleurs.
Du plus lointain de toi-même. c'est une.
Effectivement,
tu te livres là, introspection, et en même temps tu réfléchis sur toi-même.
C'est, ouais, plus que moi-même, c'est un peu nous-mêmes, parce que, voilà, comme je le dis dans quelques courts-métrages et EPK qu'on a pu réaliser ou autres interviews, c'est plutôt un regard sur nous-mêmes, sur la musique qu'on a commencé à créer et développer, et voir à un instant T. Où est-ce qu'on en est, figer tout ça dans le temps et prendre un peu de recul et voir comment aller de l'avant, quoi. Voilà.
C'est un point pas limite mais carrefour un peu voilà, vous êtes à un rond-point.
Ouais, c'est ça, parce que mine de rien
par où prendre maintenant.
Voilà, mine de rien ça tombe plutôt bien parce que ça met un terme à nos cursus réciproques, à nos cursus, si puis-je dire, scolaires, musicalement parlant.
Bien sûr, ouais.
Et le début de notre, pas le début, mais à l'embranchement de notre vraie vie professionnelle,
d'accord.
Parce qu'on a tous commencé les
bien
les
sûr,
gigs,
en même temps,
les concerts,
bien sûr,
les festivals.
Bien sûr, bien sûr.
Ah, ouais, en même temps, voilà.
Et là, maintenant, il n'y a plus que ça.
Voilà, maintenant, il n'y a plus que ça. Donc, ça nous permet de mettre un point à un instant de notre vie musicale. Et dans 20 ans, on se reprendra un verre de rhum en se réécoutant le disque et en disant « Waouh, putain, qu'est-ce qu'on était armoire à l'époque
!» Mais why? Mais pourquoi c'est toi qui as choisi ce titre-là? Mais non, moi je voulais pas faire ça, hein, je l'avais dit. Ok, donc il y a pas une dizaine, mais presque 7-8 titres, je crois, sur cet album. Et qui commence évidemment par aussi un hommage à Mulgrew Miller.
Yes.
Avec le titre qu'on entendra peut-être à la fin, Mulgrew's Mood. On peut dire, alors, donc, comme je disais dans l'introduction de l'émission, c'est pas le pianiste qu'on le connaît par cœur sur le bout des doigts tout de suite dès qu'on pense piano jazz.
Non.
On peut en le présenter rapidement, de façon synthétique quand même.
Mulgrew?
Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, comme moi par exemple.
Oui, oui. c'est un pianiste qui a accompagné beaucoup de grands.
Quelle époque, grosso modo?
Quelle époque, 70, 80, 90.
D'accord.
Jusqu'en 2013 où il nous a quittés,
bien sûr,
en août 2013. Et voilà, c'est un pianiste qu'on peut reconnaître par sa culture énorme du blues. Il a aussi une patte. J'aime beaucoup ce moment inégalable.
Ouais, mais faut le dire. Ouais.
quand on dit Mulgrew, pour moi, c'est j'aurais pas trop de façon précise de le définir, c'est plutôt un sentiment en fait que j'ai. À chaque fois que j'écoute ce pianiste,
ça parle.
Ouais,
tout de suite.
En fait, ce gars me prend aux tripes.
Ouais, d'accord.
C'est ça que j'ai aimé chez lui, quoi.
Ouais, c'est important.
Ouais.
C'est important, que ce soit pour un musicien ou pour un auditeur. Enfin...
Mais par contre, bon, c'est vrai qu'il est, il est reconnu dans le milieu, mais il est pas célèbre. Quoi. Même aux États-Unis, dans quelques radios, interviews que j'ai fait ou après des concerts, sauf à Seattle. À Seattle, je suis tombé sur des experts. Là,
pourquoi il est de par là ou de...
Alors, je me souviens plus très bien d'où
bon,
il
pas
vient.
Très grave, mais
micro. Mais je crois qu'il vient du Mississippi.
Il y a un nid de fans.
Il semble qu'il vient du Mississippi, mais je suis pas sûr.
Ouais, d'accord.
Mais voilà, bon, même là-bas, certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi tu as choisi ce gars, quoi,
pour faire l'intéressant, parce que personne ne le connaissait.
Non, mais voilà, bah, après, ils ont vite compris que j'étais un passionné de sa musique. Hein,
Donc, l'album s'ouvre avec ce titre, Mulgrew's Mood. Mm-hmm. Ensuite, on a un petit clin d'œil, Body Without Soul.
Ouais, voilà.
Qui a un corps sans âme? On peut balancer des noms ou qu'est-ce que c'est cette histoire de corps sans âme?
je resterai très
discret
et sur la joke et sur l'anecdote. Je resterai anonyme.
Ok, ouais. Ça, on essaiera d'en savoir plus une prochaine fois ou dans les bonus de l'émission. Après, il y a le titre éponyme. Mm-hmm. Tatin, 1000 points. Yep. Introspection.
Exactement. Voilà, introspection.
Pourquoi en 3?
Pourquoi en toi? Alors ça c'est pas ça c'est pas du tout réfléchi
je
comme
retire.
Ça. Je retire. Non, tu peux, ça c'est pas du tout réfléchi comme ça. Ça s'est réfléchi musicalement en termes de tempo, en termes d'esthétique.
Dans l'évolution du disque.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'était pour toi de toute façon entre l'hommage à Mulgrew Miller qui est important pour toi et puis le titre éponyme donc de l'album parce que souvent les musiciens quand ils ont un titre éponyme, ils le mettent en premier, bien sûr. Ouais, voilà. Mais bon, c'est vraiment pas d'obligation. C'est souvent assez... Voilà. Ensuite, on a Prelude to Someone. Donc et Mac Coltrane qu'on a... Alors, pourquoi Mac Coltrane?
Bah parce que Mac Coltiner et John Coltrane. Voilà. Okay. Donc on a fait la petite contraction. Et je ne précise, voilà, il ne s'agit pas d'un sandwich. Et nous ne devons aucun royalties à une certaine grande marque.
Sponsorisé sur ce titre. D'accord, tant mieux.
Et pour la petite anecdote, le titre éponyme a failli s'appeler autrement. Voilà, je ne dévoilerai pas le nom, mais...
Ah mince. Voilà. Ah si, un peu, même.
Mais l'album ne devait pas s'appeler autrement, c'est juste la première fois que j'ai écrit cette compo, c'était pour quelqu'un. Et,
d'accord.
Il y a une histoire de séparation là-dedans.
Oh là là, voilà. Là. Terrible. Alors, je vais venir à ça. Après, on a un titre un peu étrange qui s'appelle Early Walk in OKB.
Ouais.
What does it mean?
OKB. For sure, man. So, it's all about women, you know?
Ah.
Non, encore une fois, il y a encore une histoire de femme là-dedans. Ça remonte plus loin. Pendant un temps, j'ai eu une brève histoire avec une chouette fille qui s'appelle Anne-Sophie. Et voilà.
Pour l'instant, on n'est pas sur OKB. Hein.
Non,
je crois qu'elle s'appelait
Early Walk. Oui, mais ça y vient, ça y vient, ça y vient.
Non, je suis toujours impatient.
Non, mais il y a du romantisme là-dedans.
D'accord, je me tais.
Et dans mon premier album, du coup, intitulé Alex Montfort, Trio. Ouais, original. Quoi.
C'est écrit dessus.
Et donc, il y a un titre qui s'appelle Anna Sophia, un titre piano solo, voilà. Donc, qui est dédié à cette femme, tu vois. C'est le mec réfléchit. Et en fait, dans ce second album, il y a ce morceau Early Walk in OKB. Et OKB, c'est quoi? C'est Kremlin-Bicêtre. Entre Villejuif et Paris.
Oui, je connais bien.
Et voilà, bah, en sortant de chez elle à 7h du mat pour aller prendre un métro, avec la tête encore un peu là où tu vois.
Toujours aussi sur place, oui. Et OKB, voilà. D'accord.
Donc
Kremlin
c'est
venu
comme ça. Et voilà, en fait, dans chaque album aussi, j'essaie d'intégrer une pièce solo dans laquelle j'essaie de transmettre plusieurs émotions et toujours dédiées à une personne. Voilà, par exemple, là, She's Falling Asleep.
Voilà, j'allais y venir parce que moi j'aime beaucoup les ballades et celle-ci est courte, mais c'est toujours souvent les meilleures.
C'est ça.
She's Falling Asleep. Donc elle s'endort. Elle tombe de sommeil, peut-être même, carrément. D'accord. Donc, je ne sais pas si on parle toujours de la même personne, mais en tout cas.
On ne parle pas du tout de la même personne.
Bon, très bien. Donc, on reste discret aussi là-dessus. Et enfin, le titre qui termine cet album, un blues, oui, Nine Blues. Sorte de blues.
Ouais, voilà, une sorte de blues.
Il y a un lien aussi, on revient un peu sur Mulgrew Miller, un peu dans l'esprit.
Parce ouais, que, tout à fait. Ouais. Mm. Bah, avec la formule quintette, ouais, ouais. Il y a un album de Mulgrew qui s'appelle Hand in Hand, qui est vraiment génial, dans lequel il y a Kenny Garrett. Je sais plus si c'est Nat Adderley. Ouais, je crois que c'est Nat Adderley. Quelque chose comme ça. Et voilà, un titre qui s'appelle Thinking Out Loud. Et je me suis un petit peu inspiré de cet univers. Voilà.
D'accord. Et ben, en tout cas, c'est une fort belle musique d'un bout à l'autre, avec des climats, des ambiances différentes. Et c'est un bel album, Introspection de Alex Montfort et son trio AMT. Un moment avant de commencer une séquence, on évoquait quelque chose avec du rap, non ? Moi, ça m'intrigue, ça. C'est quoi ?
Oui, bah alors avec le trio, justement, enfin la même équipe, j'ai monté l'année dernière. Donc en on a fait la première rencontre en juillet dernier, donc en juillet 2018. Mm-hmm. Donc avec Samuel à la basse, non, à la contrebasse, je tiens à préciser, Tom à la batterie, un ami guitariste qui a aussi fait Didi Lockwood, Antonin Fresson, et le rappeur MC Agora qui s'appelle Joseph Baudet. Voilà, donc je fais beaucoup de productions hip-hop, G-funk, plutôt rap West Coast. Et j'ai décidé de monter ce projet avec Joseph, qui est donc le rappeur, voilà, pour avoir un esprit rap tout en ayant un live band et tout en partant de vraies productions instrumentales que j'ai.
Mais c'est ouais. Moi j'ai découvert ça aussi un petit peu par ailleurs et je trouve que ça va vraiment bien.
Ouais, là.
Pas ce projet, pas le tien, mais d'autres. Ce genre de mélange. Dans cet esprit-là,
ouais,
c'est vraiment bien.
Bah, c'est un peu un retour aux sources des années 90, qui pour moi est une époque de la musique afro-américaine qu'il faut pas oublier, quoi, parce que c'est là où il y a toutes les pépites qui sont sorties en termes de rap et de hip-hop.
Bien sûr.
Ouais. Et voilà, donc pour la petite anecdote, on a joué samedi dernier au BAM Festival des Migrants.
À Aubervilliers ?
À Aubervilliers, c'est ça. Ouais, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer pour ce projet-là l'année à venir.
Ouais. Bah, on en reparlera alors. Préciser. Et là, donc, c'est demain, je ne sais plus, moi je suis perdu un petit peu dans le calendrier.
Ouais, demain,
le concert avec l'hommage à Chick.
Avec Chick Corea, ouais.
D'accord, ok. Bon, introspection, l'album. Alex Montfort et son trio, écoutez dès que vous pouvez. Nous, on en écoute un extrait, enfin un titre entier quand même, mais un extrait de cet album. On se quitte, on se dit au revoir Alex. Merci d'avoir été l'invité de Jazz Interview sur Art District.
Avec grand plaisir.
Avec au revoir avec Mulgrew's Mood. Thank you.
pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview, pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.